Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et pas au revoir, mais bonjour, bonjour à tout le monde. On s'est un peu trompé dans le jingle. Salut Valérie.
Oh, salut.
Salut Héloïse.
Au revoir.
Au revoir Héloïse. Alors, on salue Nico qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en train de voir des spectacles jeunes enfants à Perpignan et qui ne peut pas être avec nous. On le retrouvera d'ici à 15 jours pour une émission spéciale. On en parlera en fin d'émission. Dans 15 jours, ce sera une émission spéciale par le bout de la lorgnette à l'extérieur, Valérie.
C'est ça.
Voilà, en attendant aujourd'hui, cette émission va être consacrée à la rentrée d'hiver. Héloïse, une rentrée que tu trouves parfois plus intéressante que l'autre rentrée?
Oui, effectivement, souvent, parce que c'est vrai déjà qu'il y a moins de titres qui sortent, les titres sont moins noyés dans la masse, et c'est vrai que je trouve que c'est plus intéressant, effectivement, cette rentrée.
Voilà, avant cela, j'ai une petite chronique, parce que j'ai lu un article qui m'a fortement intéressé et beaucoup fait rire, sur les livres des politiques. Alors on en a beaucoup parlé de ces livres de politiques dont une certaine V a vendu, je sais plus, 300 000 ou 600 000 exemplaires.
C'est la meilleure vente de l'année 2014.
Ouais. Voilà. Alors, à contrario, il y a certains politiques qui ne vendent pas du tout. Mm-hmm. Donc c'est intéressant. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez quel est le plus gros bid en vente de livres d'une politique ou d'un politique ces 5 dernières années, Valérie?
À tout hasard... Lionel Jospin.
D'accord, ce n'est pas lui.
Ou Wauquiez.
Alors,
il a écrit un livre ?
Non.
Oui. Il faut changer l'Europe.
Mais ce n'est pas lui, mais il n'est pas loin, je crois. C'est Christine Boutin, l'ancienne ministre, qui n'a vendu en 5 ans que 38 exemplaires de son livre qui s'intitule « Qu'est-ce que le Parti chrétien-démocrate ?»
Forcément.
Alors moi, j'aimerais lancer un appel pour aider Christine Boutin quand même, parce que 38 livres... Ouais. Bon, peut-être que le Parti chrétien-démocrate, ça intéresse pas grand monde, mais quand même...
Mais est-ce que tu connais l'éditeur de Christine Boutin? C'est qui?
Je ne sais pas. C'est une bonne question. On va se renseigner pendant la pause musicale. C'est peut-être Christine Boutin.
Parce que ça dépend du tirage. Tu vois, s'ils l'ont tiré à 100 exemplaires, 38, ça semble bien.
Mais... Eh oui, mais à la limite, si les 100 partent, tu en réimprimes, donc
oui.
Voilà. Il faut savoir que sur son dernier livre en 2009, qui n'était pas un succès non plus, elle a quand même vendu 311 livres. Son ouvrage précédent qui s'intitule « Chrétien de l'audace pour la politique ».
Elle a une grande famille,
wow.
C'est pour ça.
Elle a une grande famille, ouais.
Alors, beaucoup de cousins.
Ouais. Mais ils n'ont pas aimé le second ouvrage, hein, parce qu'il y avait 311, il n'y en a que 38. Hein. Ah ouais, il y a des gens pas sympas dans sa famille. Alors plus récemment, il a été paru « Je ne me tairai plus » de Claude Bartolone, écrit avec une journaliste du Monde, qui a été vendu à 268 exemplaires en 2 semaines. Après, ils ont arrêté. Mmh. Delphine Bateau, après sa sortie du gouvernement, L'Insoumise, 715 exemplaires. Et même échec pour le ministre des Finances, Michel Sapin, malgré un travail indéniable pour soigner le titre « L'écume et l'océan », chronique d'un ministre du Travail par gros temps, n'a conquis que 346 acheteurs en 3 semaines.
D'accord. Non. Mais c'est vrai que c'est très difficile, en fait, les livres politiques, et on peut le voir, ça peut se vendre énormément, comme pas du tout. Donc ça dépend des tendances, des...
Ouais. Après, certains noms aident. J'ai vu que François Fillon, par exemple, pour son livre Qui va sortir, a déjà touché une prime de son éditeur. Il me semble que c'est Gallimard, de 140 000 euros ou quelque chose comme ça.
Donc, Gallimard, Fillon, ouais.
Peut-être bien. D'accord. À vérifier. Non, peut-être pas, alors.
Je sais pas, ça m'étonne, mais...
Non. Peut-être Pif Hercule.
Oui. Après, c'est vrai qu'il y a des politiques qui écrivent des livres politiques, il y a aussi des politiques qui écrivent des romans ou des livres historiques, et là, ça marche tout de suite mieux.
On voit Giscard
d'Estaing, ou la bataille de la Marne, oui, effectivement. Mais Giscard d'Estaing, il avait écrit un livre assez érotique, en plus, Le Princesse Loana, ou je ne sais quoi, et ça avait pas mal marché. Ouais.
Mais oui, il parlait de Lady Di, non? De
ses aventures qu'il avait eues,
Je ne sais pas.
qu'il aurait a priori eu avec Lady Di.
Quel coquin alors.
artiste Valou.
Ouais, de toute façon, dès qu'on s'appelle Valérie,
oui, ça...
derrière, allez, voilà, c'était juste une petite aparté hein, pour dire que ça ne marche pas toujours et c'est tant mieux.
Donc, on fait une spéciale de littérature de Christine Boutin ou...
Ben, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien qu'on l'ait.
Ça pourrait être sympa d'y lancer, ouais.
Je vais peut-être le commander. Je ne sais pas s'il est disponible encore. Je ne sais pas si je vais le lire non plus. Enfin, bref. Cette rentrée d'hiver, allez, on commence avec des coqs qui sont cubains, qui chantent à minuit avec Valérie.
Ouais, alors, c'est un livre donc, de la rentrée littéraire. Le titre, c'est « Les coqs cubains chantent à minuit ». De Tierno Monenembo, qui est à la base, qui c'est un Guinéen qui a écrit pas mal de livres sur l'Afrique, sur la Guinée, des livres qui sont souvent, comment dire, c'est quelqu'un qui est assez engagé dans son écriture, mais qui va dénoncer des choses sans jamais s'impliquer dans la politique, dans un parti ou dans un autre. Il est assez indépendant. Mais il est engagé dans son pays. Et dans ce livre.
Son pays, il vit.
Il a vécu en France.
Il vit pas à Cuba, en fait.
Non, pas du tout. D'accord. Non, il est guinéen. Il a étudié, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a un super parcours. Hein, il a fait de grandes études en France. Mmh. J'avais noté où est-ce qu'il habitait. Ouais, il est né en 47. Il a vécu en France, oui, en 73. Et là, il vient juste de repartir vivre en Guinée. Enfin, d'accord. Il est reparti chez lui, mais bon, il a. Voilà, docteur en sciences, thèse en biochimie, enfin, c'est pas...
Oui, c'est une tête, quoi.
Voilà. Et donc, il a écrit pas mal de livres, notamment sur son pays, qu'est l'Afrique. Et celui-là, donc, c'est le premier qui se déroule...
L'Afrique, c'est un continent, hein. Son pays,
oui.
C'est la Guinée.
Oui, la Guinée, voilà, qui se situe sur le continent africain, celui-ci. Absolument. Merci pour
mon
la
pays, poste. L'Europe, mais c'est beau.
C'est ça, c'est beau. Non, mais pourquoi pas unifier les pays dans un même continent.
Ouais.
Et donc, Les coqs cubains chantent à minuit, ça se passe donc à Cuba. C'est l'histoire d'une personne qui retourne à Cuba sur les traces de sa famille, puisqu'il y a énormément, donc, il existe quand même un lien vraiment fort entre l'Afrique et Cuba. Et donc, c'est un Guinéen qui part qui part à la recherche de sa famille à Cuba. Il a l'impression d'être cubain, il se sent cubain dans l'âme et il est accueilli par une personne qui de métier récupère les gringos à l'aéroport et est chargée d'aller leur faire visiter Cuba et dépenser beaucoup d'argent. Et donc, ils vont vivre tout un tas d'aventures ensemble à la recherche de ces traces. Et on est immergé complètement dans la vie cubaine. Et je le disais en plaisantant, mais ce livre, il sent le cigare, il sent la salsa. On est vraiment immergé complètement dans la Havane. Il y a énormément de références à Castro, au rythme endiablé. Il y a un petit peu de référence à tout ce qui est la religion, j'allais dire la deuxième religion après le communisme, qui est avec des rituels vaudous, des choses comme ça. Et c'est toute cette atmosphère-là qui suivent l'histoire donc du personnage pour arriver donc à retrouver ou pas sa famille. C'est très bien écrit, ça apprend plein de choses aussi sur Cuba. Ça fait des rappels à tout ce qu'on pouvait savoir sur la Havane, sur même les.
Ça se passe aujourd'hui en fait à l'heure actuelle.
Oui, moi je l'aurais vu plus années 60.
Oui, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu l'âge d'or aussi. On voit Cuba, on voit les années 50, c'est 60, ça. Les voitures, etc.
C'est ça. On est là-dedans dans cette ambiance où finalement tout est prohibé, mais tout est faisable. Où c'est que normalement on ne doit consommer que des produits venant du sol cubain, mais finalement. On fait venir de l'alcool de partout. Enfin, et puis c'est beaucoup de sous-sol, beaucoup la danse, beaucoup les gens qui savent beaucoup d'histoires, les non-dits. C'est vraiment intéressant comme livre.
C'est autobiographique ou c'est complètement.
Absolument pas.
C'est une fiction de A à Z.
C'est une fiction entièrement, mais il y a toujours des rappels aux hommes politiques, aux noms des quartiers, les noms des fleuves, les villes. Enfin, c'est.
J'imagine que l'auteur a dû aller à Cuba donc dans sa vie pour justement en tirer ces petites anecdotes, ces histoires.
Alors là, je sais pas s'il y a été. Par contre, lui, il voulait un peu parler justement du lien qui existait entre les Cubains et les Africains, en fait. Et même dans le roman, il y a plusieurs voyages entre le continent africain et Cuba, qui était en lui-même une fête, en fait. Hein. Il expliquait que l'ambiance afro-cubaine, on l'a retrouvée déjà dans le bateau. et puisqu'il fallait 17 jours à l'époque pour traverser. Mais j'ai pas vu dans la biographie de Thiernot si j'ai mis son prénom, c'est pour ça que je préfère.
Oui, et en ce qui concerne le titre, moi je trouve que c'est un titre vraiment assez beau, les coqs cubains chantent aussi, à minuit. Ouais.
Ouais. Excellent. Ouais.
Et voilà, est-ce qu'il y a des combats de coqs? Est-ce qu'il y a quelque chose
Le côté coq, moi aussi je m'attendais à ce qu'il montre les combats de coqs qui sont vraiment l'emblème aussi de Cuba, mais il parle plus des coqs sur le côté sacrifice rituel vaudou. Voilà. Et après, le côté par rapport à minuit, c'est plus l'image de minuit et tout ce qui se passe dans l'imaginaire par rapport au minuit. C'est le début de la nuit, c'est tout ce qui peut, tout l'underground, enfin tout ce qui peut ressortir à cette heure-là.
Voilà. Comment tu qualifierais cette histoire? C'est une histoire qui reste drôle, il y a des rebondissements, c'est...
La façon dont c'est écrit est drôle, puisqu'en fait, c'est donc le petit Ignacio qui est un peu l'homme de main d'une espèce de mafia, qui va récupérer donc les gringos qui arrivent à l'aéroport pour leur donc faire dépenser l'argent un maximum à Cuba. Et c'est lui qui raconte comme s'il écrivait, en fait, au Guinéen qui vient sur le sol, qui... je suis en train de chercher... El Palenque. Voilà, ils y ont donné un petit surnom, El Palenque. Et il lui écrit, en fait. Donc, tout le livre est écrit donc à la seconde personne. Et il dit, oui, si tu étais là, El Palenque, tu ne pouvais pas savoir que... Déjà, de la façon dont c'est écrit, c'est assez spécial, d'autant plus que cet Ignacio, il n'a pas une grande culture, donc il écrit tel qu'il parle.
Mais ça fait un peu conte, du coup, comme t'en parles, ça fait un peu conte oral, effectivement, dans l'oralité. Ça a l'air t'as un petit passage à nous lire pour qu'on se rende compte.
J'ai collé plein de post-it.
Mais je vois, donc c'est pour ça que...
Il faudrait que je prenne...
Choisis, vas-y.
Allez,
on te laisse un peu de temps.
Hasard.
Le parti chrétien démocrate a été fondé...
Oh, stop la propagande, Ludo, c'est bon.
Sors de ce corps, Christine. Voilà, donc, nous ne sommes pas du monde, El Palenque. Nous sommes le monde, et nous n'en sommes pas peu fiers. Nous sommes le produit de tous les frottements qu'a connu cette putain de terre ces 5 derniers siècles. Nous ne sommes pas les bâtards des Noirs et des Blancs, nous sommes les bâtards de tous les Blancs et de tous les Noirs, des Juifs, des Arabes, des Chinois aussi. De sorte que tous les jours que le bon Dieu fait, tu verras apparaître à la maternité El Infantil une nouvelle couleur de peau, une nouvelle race humaine. Nous sommes catalans, basques, castillans, galiciens, russes, français, yoruba, congolais, akan, peu, mandingue, ouloufo, serrère. Et cela se voit dans notre bouffe, dans nos chants, dans nos danses, dans nos corps insatiables, dans nos âmes joviales et tourmentées. Nous sommes cubains, c'est ce que nous savons être, c'est ce que nous savons faire. Somos cubanos.
Super.
C'est assez cru quand même, ça.
Par moment, ouais. Il y a deux, trois passages. Il y en a un qui est sur une page qui est très, 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 très cru. Mais bon, la personne avait bu trop de rhum, donc elle est toute excusée.
C'est le problème à Cuba, ouais.
Voilà, par contre, ouais, ça sent le cigare et le rhum dans le livre. Voilà.
Évidemment, ouais.
Voilà, mais c'est vraiment joli. Puis Cuba, c'est vrai que c'est pas forcément une île dont on lit souvent des choses dessus. Voilà.
Bah, très bien, donc c'est un coup de cœur, je peux dire.
Ouais. C'est pas le livre dont je penserai quand on me dirait mes ouvrages préférés, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire, hein, et ça m'a donné envie, voilà, de lire un petit peu justement sur tout ce qui était l'ésotérisme, les traditions religieuses à Cuba. Ça m'a lancé là-dessus. Voilà.
C'est chez Seuil.
Chez Seuil, ouais.
Au Seuil, ouais, tout à fait.
Allez, voilà. On rappelle l'auteur et le nom du livre.
Thierno Monenembo. Les coqs cubains chantent à minuit, donc chez Seuil.
Très bien, merci beaucoup Valérie. Allez, cette rentrée littéraire également, un livre, La saison des mangues. C'est la saison des mangues là, actuellement? Non.
Pas chez nous, en tout
pas
cas.
Pas chez nous, hein.
Donc c'est un livre de Cécile Huguenin. Donc, la saison des mangues, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Et donc c'est une histoire vraiment, bah, pareil. Là, tu nous as fait voyager avec Cuba, etc. Donc là, c'est un livre qui va vraiment faire voyager. On passe de l'Angleterre à l'Inde, à l'Afrique. Et donc, en gros, ce livre court sur 3 générations de femmes. C'est un livre très féminin, des personnages féminins incroyables, vraiment. Et donc, il y a Radhika, qui est une Indienne, qui a été mariée à un colonialiste, qui a été littéralement vendue par son père à un colonialiste. Radhika, qui a une fille qui s'appelle Anita. Anita, qui, au retour en Inde, parce que le major anglais est mort, et donc, elles reviennent toutes les deux en Inde. Et Anita rencontre aussi, elle aussi, un occidental dans l'avion. Et ensuite, elle a une fille qui s'appelle Mira. Donc, en fait, c'est ces trois femmes qui vont être vraiment le fil conducteur de ce livre. C'est des très belles histoires. En même temps, ça va à l'essentiel. C'est un livre qui est assez court, hein. Et les histoires sont très bien racontées, mais ça va à l'essentiel. Il n'y aura pas de grandes digressions, c'est vraiment très bien écrit, c'est passionnant. Et donc, y a deux narrateurs dans le livre. La première, c'est Anita, donc qui va raconter l'histoire de sa mère.
D'accord. Et c'est son histoire à elle. C'est la plus jeune, Anita.
Anita, c'est celle du milieu, en fait. D'accord. C'est la fille de Radik. Hein. Oui, okay. C'est un peu difficile de s'y retrouver. Et donc la première narratrice, ça sera sur la première partie du roman. Elle va raconter l'histoire de sa mère et son histoire à elle. Et ensuite, Mira, donc la fille qui a envie de se détacher de toute cette culture indienne. Elle est passionnée d'Afrique et donc elle va partir en Afrique. Donc il va se passer quelques drames là-bas. Et donc c'est son meilleur ami, Amira, qui va raconter l'histoire sur la deuxième partie, l'histoire africaine. C'est vraiment passionnant et c'est un livre qui, même s'il y a des moments très durs, c'est un livre qui est passionnant et qui mélange plein de cultures et qui, je trouve, c'est un très beau livre. J'ai beaucoup aimé.
Et ça se passe plus, parce que le titre, Les Manguiers, c'est plus en Afrique, ça se passe plus sur l'Afrique qu'en Inde,
c'est un rituel en fait en Inde autour des manguiers, c'est-à-dire qu'on peut formuler trois vœux à l'arbre. Tourne autour de l'histoire de ses vœux en fait, d'où le titre.
Ouais. Une histoire réelle ou non, fiction complètement?
Non, c'est totalement une fiction, oui, parce que c'est vrai que l'auteur est française, elle est occidentale, elle a 74 ans. D'accord. C'est son premier roman en fait. Ah, avant, elle écrivait des essais parce qu'elle est psychologue en fait et elle écrit beaucoup sur la maladie d'Alzheimer. D'accord. Mais là, il y a vraiment aucun rapport, je veux dire, avec la maladie ou je ne sais quoi. C'est juste qu'elle a eu envie d'écrire ce roman par sa passion du pays, de l'Inde. Et c'est vraiment beau, c'est un livre à offrir pour un peu se vider la tête, pour décompresser, quoi.
On sait quoi de Cécile Godin? C'est son premier ouvrage? C'est une écrivain connue?
Oui, voilà, ce que je disais, c'est son premier roman, vraiment. Mais...
Je pensais à autre chose.
Je peux répéter, si tu veux.
Pardon, c'est pour moi. Allez, je vais reboire un peu de vin.
Vas-y, je suis pas sûre que ça t'aide, mais...
Par contre, sur la rentrée littéraire d'hiver, contrairement à la rentrée de septembre, on a quand même des auteurs qui sont pas forcément à leur premier ouvrage par rapport à...
Non, parce que là, c'est vrai qu'on va parler de, par exemple, avec Ludo, de Russell Banks, c'est vraiment très varié. Après, c'est vrai que dans la rentrée d'hiver, il y a beaucoup de premiers romans aussi. C'est un peu le moment où on peut sortir quelque chose.
C'est plus facile, la rentrée d'hiver, de sortir des premiers romans que...
Bien sûr, c'est plus facile parce que ça va moins se noyer dans la masse, en fait.
Il y a combien de rentrées, en fait, en littérature?
Je dirais qu'il y en a, énormément. Il y a des rentrées jeunesse, il y a la rentrée de printemps, il y a la rentrée d'été. Il y a beaucoup de rentrées en fin de compte, même si on parle que de celle de septembre.
Ouais, c'est dommage.
Ben non, regardez, heureusement qu'on est là. La preuve.
Donc voilà, c'est un chouette livre.
La saison des manques, Cécile Huguenin, c'est quelle maison d'édition?
Les éditions Héloïse d'Ormesson. Héloïse qui est la fille de Jean d'Ormesson.
D'accord, beaucoup de maisons d'édition, c'est bien. J'imagine qu'il y en a plein qui ferment.
Il y en a énormément et c'est vrai que j'essaye dans les choix que je vous donne de faire découvrir certaines choses comme celle-ci dont on va parler avec toi.
Voilà, on parlait de...
Quelques rides
de Fabien Clouette. On parlait de premier roman, de jeune maison d'édition. Et ben, pour la peine, là, c'est un premier roman et c'est le premier roman édité par cette maison d'édition. D'accord. Qui s'appelle la maison d'édition des Ogres, c'est les éditions de l'Ogre.
Ouais.
Voilà, donc premier roman de cet écrivain. Alors il avait déjà sorti une nouvelle, mais paru seulement en numérique, qui s'intitulait Une épidémie. Cet auteur, Fabien Clouette, a 25 ans, donc très très jeune auteur, pour très très jeune écrivain. Alors, premier roman de cet écrivain, premier roman sorti par la maison d'édition, donc on pourrait se dire... un premier roman à sortir, on va peut-être pas trop oser ou on va faire attention à ce qu'on fait, et bien pas du tout, c'est un pari osé. Pour moi, c'est un livre étrange. au point de vue de la narration, de la construction de l'histoire, un livre qui n'est pas classique. Alors, j'ai pas la même culture littéraire que vous, donc je sais pas si ça s'est fait auparavant, si ça s'est pas fait, vous me direz au fur et à mesure de l'explication de ce livre. Alors, c'est l'histoire d'un petit village en bord de mer, un petit port de pêche français qui paraît s'être construit autour de l'hôtel de la famille de Cap-Vray, à moins que ce soit l'hôtel qui soit construit autour du village. Alors, je commence par vous perdre parce qu'on va complètement se perdre dans ce roman. Les parents vieillissants, c'est Cap-Vray, donc c'est le héros entre guillemets de ce livre qui doit assumer la charge de l'établissement. Alors, pas directement parce qu'il est persuadé que son frère, qu'on nomme le chef, qui est mort prématurément dans son enfance, assume cette responsabilité. C'est de la schizophrénie complète. Cap-Vray a deux personnalités, celle de son frère décédé et la sienne qui est plutôt perdue dans les méandres de l'enfance. Sous son impulsion involontaire donc de Cap-Vray et l'ambition d'une famille de notables, le village change et s'ouvre au tourisme. Qu'est-ce qui se passe? Un deuxième hôtel est construit mettant en péril le fragile équilibre de la vie de Cap-Vray. Concurrence arrive. Donc Cap-Vray, qu'est-ce qu'il fait? Il assassine le directeur du nouvel hôtel, Neg Chin. Un procès s'ensuit, accompagné d'une expertise psychiatrique. Cachon, un assistant médical plus intéressé par les ragots du village que par sa fonction, est chargé de mettre en forme les résultats de l'expertise et de son enquête. Et en fait, c'est ce texte éclaté, taché de beurre de sandwich, qui est donné à lire ici. Alors, je dévoile rien, vu que tout ce que je viens de raconter, ce synopsis, est expliqué dans les deux premières pages du livre. Alors là, Valérie se dit, on connaît déjà l'histoire, pourquoi lire le livre, Valérie?
Absolument, on connaît déjà l'histoire. Alors, pourquoi lire le livre, Ludovic?
Alors, merci de me poser la question, Valérie. Alors, en fait, cette explication, ces deux premières pages seront les seules clés que l'auteur donnera pour comprendre cette histoire, pour arriver à la déchiffrer. Alors, quand le livre commence réellement, après ces indications, on arrive donc dans l'histoire. On fait de constants allers-retours entre passé et présent, entre mêmes personnages schizophrènes, d'incidents sur lesquels circulent plusieurs versions. Alors, on croit toujours être sur le point de découvrir le secret du livre, bien qu'on connaisse l'histoire finale, d'aller plus loin que le premier jet d'encre de l'auteur, que les allusions, les non-dits, pour mettre à jour en fait ce qui se tapit sous le témoignage de Cap-Vray, un témoignage qui, comme je l'ai dit, flirte en permanence avec l'hallucination. Mais en fait, ce réel, bien évidemment, est destiné à nous rester inconnu. On retrouve dans ce livre des purs moments de narration dans une atmosphère étrange, envoûtée. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé ce roman vraiment conceptuel, parce que si l'histoire coule pas comme le chapouille à Saint-Chély, c'est un livre qui est pas extrêmement compliqué à lire. Alors, il faut passer les premières pages du livre, passer le début, parce qu'on comprend absolument rien. Il y a énormément il y a des personnages. L'introduction, mon explication de début est incompréhensible. Ouais. En fait, c'est au lecteur de se concentrer pour reconstituer ce qui a pu se passer, sachant que l'auteur fait varier les points de vue, il perturbe la chronologie, sans pour autant jouer l'illisibilité. Ouais. C'est vraiment au lecteur d'être concentré, de tout rattacher. Alors, dans ce livre, il y a également une relation, on sent forte avec le cinéma et avec certains auteurs. Par exemple, on retrouve le Shining. Avec cet hôtel qui tourne au ralenti, quoi. On retrouve, j'ai retrouvé du Faulkner aussi. En fait, ce petit village, il se transforme en véritable comté. Alors, excusez-moi, de Yoknapatawpha, de Faulkner. Et j'imagine qu'il y a bien d'autres allusions à des films, que je connais pas, donc j'ai pas pu faire la relation. Alors, c'est pas un roman policier. Moi, je le classerais dans le polar. Un polar à huis clos ouvert, vraiment étrange. C'est une performance d'écriture pour moi. C'est haletant de bout en bout, alors que tout a été dévoilé en introduction finalement. Mmh. Moi, je prédis une grande carrière à cet auteur, Fabien Clouette.
Mmh. C'est vraiment conceptuel. Parce que tu décris ça un peu comme une expérience. En fait, c'est pas comme lire un livre. C'est un peu rude, c'est dur. Il faut se concentrer. Enfin, ouais, voilà. C'est une expérience en soi de lire le livre.
C'est une expérience pour moi aussi parce que je connaissais pas ce type d'écriture qui, j'imagine, a déjà dû exister, quoi. Tout ce qui est flashback, schizophrénie, retour. Raconter l'histoire au début et réussir à faire à ce que le lecteur se dise il y a autre chose derrière, essayer de comprendre cette personnalité du schizophrène qui au final est schizophrène, donc il y a rien à comprendre quoi. Il tape des hallucinations et de compagnie. Donc on reste quand même dans ce style haletant à vouloir savoir sans jamais finalement rien découvrir,
mais
à avoir plusieurs versions
tout en sachant tout au final.
C'est
drôle, ouais.
Donc c'est vraiment intéressant comme livre à lire. Alors c'est pas facile dans le sens où voilà, je vais vous parler de Russell Bank après, où on a une histoire voilà, c'est la sensibilité, c'est les personnages, c'est la survie, c'est la classe moyenne, c'est un reportage. On lit ça, on est de voilà, là c'est un peu plus compliqué, donc moi je trouve que pour un premier roman, déjà c'est écrire ça en premier roman à 25 ans, c'est énorme. Et la maison d'édition aussi, je tire mon chapeau parce que on peut publier autre chose en prenant peut-être moins de risques, en se disant voilà.
Oui, quelque chose de plus bateau.
Quelque chose de plus bateau, et j'imagine qu'ils ont dû attendre l'auteur pour lancer cette maison.
Oui, je pense qu'ils ont eu un réel coup de cœur pour se dire bah voilà, on va publier un roman.
Voilà. Oui. Alors après, autant donc les deux premières pages qui expliquent l'histoire du début, je vais vous les lire pour vous montrer la complexité de l'écriture de cet auteur à certains moments, notamment ces deux premières pages, parce qu'après ça devient plus de la narration, donc c'est plus simple. Je vais vous faire deux passages. Donc ce premier passage: quand lui objecte que peinture sur merde égale propreté, qu'il aille repeindre tout ça, la cible. On n'y voit plus les grands ronds destinés à la créer, les marqueurs. Mais ce qui compte, c'est le bruit des impacts. Il se tient debout entre les deux coques à sec, grattant son mollet droit avec le bec du fusil vidé. On ne compte plus les points, puisque le but est d'effrayer les pies, pas de gagner au chamboule-tout. Elles reviendront, elles seraient capables de manger les moineaux, de colère, si on ramassait les fruits, avant qu'ils ne soient mûrs. Voilà. Après, donc, il raconte l'histoire de l'hôtel.
C'est hyper beau. Il y a un rythme incroyable.
Donc voilà, il parle de l'hôtel. Il dit: il y a un hôtel posé sur le bout d'un pré, lui-même coupé par les vagues. Dans cet hôtel, géré par Cap Vray, personne ne vient jamais. Les clients ne viennent pas passer de temps par ici, encore moins y dormir ou s'y restaurer. Pourtant, il y a un restaurant et parfois, les employés de l'hôtel y mangent. Ouais. Des fois, ça peut être drôle. C'est un livre qui peut être drôle. Voilà. Après, des fois, on entend Cap Vray qui parle à la première personne. Des fois, on retrouve ce scribe qui écrit. C'est plus normalisé après l'écriture. C'est plus des phrases courtes, contrairement à l'extrait que nous a lu. Voilà, c'est lui. Donc, c'est par exemple: toujours est-il que le vent ne cesse pas sur la bicoque. Si ça continue, on ne va pas pouvoir la laisser dehors, ni elle, ni les autres, avec ses mâts qui sifflent. Les rentrées. C'est trop bête. Les rentrer demain plutôt, avec les nouveaux arrivants. Ça résiste, ces affaires. Voilà, ça reste après de la littérature qu'on a l'habitude de décrypter ici.
Ouais, t'as l'impression d'être sur une île avec de la brume, avec des habitants un peu
qui leur secret. Il décrit bien, c'est des sons, c'est de la matière. C'est pour ça que y a cet auteur, à mon avis, a une forte relation avec le cinéma, parce que c'est vraiment... on retrouve ça.
Ouais. La couverture aussi est...
c'est un joli livre.
C'est une très belle fabrication. Voilà. Oui.
On mettra les photos sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Ouais, c'est un format très petit. Je sais pas format.
Oh là, j'ai pas le compas dans l'œil, donc je voudrais pas te dire. Mais
c'est un format petit,
quasiment un format de poche. Ouais.
C'est aéré, ouais, c'est joli. Donc bravo aux éditions de L'Ogre et à Fabien Clouette, qui à mon avis, on va en entendre parler d'ici peu de temps.
Ouais. Ça donne envie.
Voilà, on se fait une pause musicale avant de reprendre la suite. Allez, alors Héloïse, tu nous as choisi Hélène Killer.
Hélène Killer, Marie et Joseph sont ensemble pour la vie.
C'est mignon.
C'est trop mignon.
Thank you. Tant que pour la vie. Marie et Joseph sont ensemble pour la vie.
La 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 la. Merci Héloïse pour cette chanson de 12 minutes 30 expérimentale. C'est de la musique expérimentale, Valérie.
Et non pas électro.
Et non pas électro.
Parce qu'on ne peut pas danser dessus. Moi j'écoute.
Oui, encore que la musique électro, tu danses pas dessus. Hein.
Oh, le trip-hop, moi je danse sur la musique électro.
C'est vrai.
Sans souci. Je te aussi. Montrerai Angoulême.
Ouais. Ok. N'en dévoile pas trop. On voilà. cache. C'est un secret pour nos auditeurs. Oui. Alors, on revient, mais tiens, pour toi, les grandes villes n'existent pas, Héloïse.
Oui. Alors, c'est un
ça, c'est parce
m'a...
que t'habites à Mende, ça.
Oui, non, mais franchement, il y a un lien, en plus. C'est une jeune femme qui s'appelle Cécile Coulon, elle a 24 ans. Elle a déjà 3 romans à son actif, et là, elle vient d'écrire un essai qui s'appelle donc « Les grandes villes n'existent pas ». C'est une jeune femme qui a grandi en Auvergne, dans un petit village. Et donc, dans cet essai, elle raconte effectivement ce que c'est d'être adolescent et de grandir dans un village de moins de 200 habitants. Et c'est vrai que moi, ça m'a touchée parce que c'est mon cas aussi. Et ça peut toucher beaucoup de monde ici parce que ce qu'elle raconte, même si ça se passe en Auvergne, ça peut toucher tout le monde. Enfin, c'est des situations qu'elle, que tout le monde a connues ici. Voilà, le rassemblement au stade de foot le soir... des choses comme ça, se mettre sur le parvis de l'église pour boire des bières, pour fumer des clopes, c'est... Voilà.
Ça, c'est dans toutes les villes, même les grandes villes, les petites
villes.
Oui,
mais il y a une ambiance particulière, c'est-à-dire que tu, en un coup de vélo, t'es chez ton voisin, t'es chez ton ami, tu vas te baigner dans la rivière à côté, tu vas pêcher, tu vas chasser, enfin, je ne sais pas, c'est vrai que tous les adolescents peuvent vivre ça, mais dans un village ou dans une petite ville... Ça se ressent différemment. Il y a une sorte aussi de... On est coupé un peu des grandes villes, du monde extérieur. Et il y a une vie propre au village. Et c'est... Enfin, voilà, c'est une petite collection qui s'appelle « Raconter la vie au seuil ». Et voilà, elle raconte tout simplement ce qu'elle a vécu. Mais je trouve ça vraiment hyper, hyper intéressant. Et ça me fait penser effectivement voilà, à l'hyper-ruralité, à la ruralité dont on parle pas mal en ce moment.
On avait parlé d'un livre sur les livres
oui,
de Noël.
Oui, ça c'est
sur
le village.
C'est Nico.
C'est Nico, c'est une photo.
Photos,
ouais.
voilà.
Oui, mais ça fait penser à ça, parce que quand Nico racontait comment les habitants qui avaient été pris en photo racontaient leur village, finalement c'était ça. C'était l'entraide entre voisins, c'était les gosses qui se rencontraient entre eux. Enfin,
oui, c'est ça. Sauf que là, voilà, c'est le point de vue en fait de... d'une adolescence passée dans un village. Et donc Cécile Coulon, elle était ce matin sur France Inter, elle était jeudi à la Grande Librairie. C'est une jeune auteure, mis à part effectivement cet essai qui est un peu à part dans son œuvre. C'est une jeune auteure qu'il faut suivre parce que c'est des livres très rock'n'roll, qu'elle écrit des romans très beaux. Et ça s'appelle Le cœur du pélican, son dernier roman aussi, qui est sorti en même temps que celui-ci dont je vous parle.
Mais celui-là, pas de rapport par rapport à son œuvre écrite
Alors, son œuvre romanesque, on va dire, c'est vrai que ça, elle s'inspire effectivement un peu de ce qu'elle a vécu dans le dernier. Ça se passe effectivement dans un village où il y a un jeune homme qui est dans une position particulière. Mais là, vraiment, c'est son expérience.
Moi, ça m'énerve, les auteurs à 24 ans qui ont déjà écrit 3 livres.
Et il faut pas que ça t'énerve.
Alors
parce que
tu viens de terminer ton premier Bibliothèque Rose.
Regarde-la en photo, elle est tellement mimi, elle est géniale, cette fille. Moi, je l'aime beaucoup.
Et là, c'est son histoire qu'elle raconte dans Les grandes villes n'existent pas.
Voilà, oui, c'est tout à fait, c'est vraiment son expérience. Mmh. Alors qu'elle dit elle-même que dans les romans, c'est pas du tout, c'est très fictionnel et c'est pas du tout ce qu'elle a vécu. Mmh. Là, on lui a demandé, voilà, c'est un exercice de style, on lui a demandé de raconter
son enfance.
La ruralité en fait.
C'est son éditeur qui l'a demandé de partir sur ça parce que tu dis on lui a demandé,
oui,
c'est intéressant.
C'est cette collection en fait, c'est Le Seuil qui demande effectivement.
C'est une collection spécifique d'accord.
Raconter la vie.
Ok.
Et donc ça commence, je vous lis juste la première phrase, pardon.
C'était peut-être la première fois.
C'est lapsus, ouais, c'était peut-être la première fois.
C'est page 99.
Je me suis souvent demandé si mon village natal, avec ses 800 habitants, ses lacs, ses étangs, ses chemins et ses forêts, sa barrière de volcans et ses massifs montagneux, existait, même pauvrement, dans l'esprit de ceux qui n'y avaient pas grandi. Voilà, ça commence comme ça. C'est une vraie réflexion, à la fois sociologique, philosophique. C'est extrêmement intéressant.
Encore que c'est un gros village de 800 habitants.
Oui, effectivement.
Malbouzon va être jaloux.
C'est ça.
Les autres livres, donc, elle n'a pas sorti dans cette maison d'édition, j'imagine, ses romans. Si c'est Seuil, par contre.
Non, ses romans, c'est chez Viviane Ami.
Ah.
Et donc le dernier, ça s'appelle Le cœur du pélican. Après, il y a donc, il me semble qu'il y a Le roi n'a pas sommeil. Et parce que je les ai tous lus, mais je me souviens plus des titres.
T'as le droit.
Oui, vous êtes indulgent.
C'est ça, et donc à 24 ans, elle a écrit déjà plus qu'une nouvelle. Mais... Enfin, c'est impressionnant.
Non, 24 ans, elle a déjà trois très bons romans à son actif. Et donc cet essai qui peut être plus anecdotique en fait dans son parcours, mais je pense que c'est important aussi.
Oui.
Voilà.
Faut le dire à Fabien Clouette, hein. Trop nul, hein,
25 ans. Oui, mais il avait fait une œuvre, tu avais dit, qu'elle avait été publiée sur
une nouvelle.
Il a peut-être mis du temps à l'écrire celui-là aussi.
Oui, ça a l'air costaud.
Ouais. Cécile Coulon, c'est intéressant. Donc, comment tu définirais ce livre? Donc, c'est sa vie d'adolescente dans un milieu rural, mais c'est quoi? C'est juste narratif?
Non. Enfin, il y a vraiment une réflexion philosophique sur la condition en fait d'adolescents et de jeunes vivant en ruralité dans un village. Et il y a des petites anecdotes qui font sourire, et moi, évidemment, qui me rappellent ce que j'ai vécu. Mais il y a vraiment une vraie réflexion derrière, et c'est ça qui est intéressant et qui peut toucher tout le monde. Quoi.
C'est pas quand même un roman régional.
Alors là, pas du tout. Non.
C'est marrant, quand tu parles de roman régional, il vient des auteurs à l'esprit, ça me fait peur. Ça me fait peur. Okay.
On fera une spéciale roman régional.
Ou pas. Alors, Cécile Coulon avec Les grandes villes n'existent pas, édition Le Seuil, raconte la vie.
Voilà. Merci
beaucoup.
Racontez
la vie. Merci beaucoup, Héloïse. Ouais. Allez, on va parler des Friedland.
Des Friedland.
Friedland, c'est allemand.
Ah, c'est allemand.
Okay. Les Friedland.
Déjà, ça me déçoit.
Que ce soit allemand ou que ce soit un nom.
Friedland, j'imaginais autre chose, tu vois.
Friedland.
American, ouais.
Oui, Friedland. Non, absolument pas. C'est allemand dans toute sa splendeur. Ça se passe en Allemagne, l'auteur est allemand, les personnages sont allemands.
Il fait froid, on marche droit.
Plus ou moins. Oui. Sauf que la vie va prendre un sacré coup de virage, justement. Ah. C'est un roman de Daniel Kellmann qui est pareil, un jeune auteur. Bon, un peu, il a passé les 25 ans puisqu'il est né en 75, donc allez,
il est jeune.
Hein, il est jeune quand même. On va le garder dans les jeunes quand même. Ouais. Donc on le connaît un petit peu puisqu'il a quand même écrit Moi et Kaminski.
Oui.
Voilà. Donc entre autres, hein, il a quand même plusieurs livres à son actif. C'est un auteur donc allemand qui a vécu un peu en Autriche. Donc il est quand même bien baigné dans l'ambiance Allemagne,
Germanique.
Enfin, voilà. C'est un peu droit. Voilà. C'est vrai que l'écriture elle est quand même assez la même du début jusqu'à la fin du livre. Donc là on pourrait avoir l'impression de lire un livre, un roman.
On les connaît, Louise, les Allemands, ils sont droits.
Non, mais on va nous traiter de racistes.
Non, pas du tout.
Non.
Absolument pas.
Les Italiens sont frivoles, les Allemands droits. On peut tous avoir des préjugés. Hein.
C'est ça. Les livres cubains sentent le cigare.
Sentent le cigare.
Voilà, celui-là sent le cirage. Non, c'est... donc, ça se passe au début des années 80. C'est donc une histoire de famille. Ça paraît... Quand on le lit au premier abord, on a l'impression de lire une histoire de famille toute simple d'un papa qui amène ses enfants voir un spectacle, voir un hypnotiseur, et puis, pouf, on se retrouve 20 ans plus tard dans la vie d'adulte de ses enfants. Et moi, enfin, sur le début de l'histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'auteur nous décrit cette histoire simple d'un père et ses trois enfants? Et puis après, on commence à se rendre compte qu'il y a vraiment une histoire derrière de famille grave, puisque les enfants, enfin, la tournure de la vie des enfants part complètement en cacahuète. Il y a rien qui se passe comme ils avaient prévu. Le père, il passe du jour à la nuit. Enfin, je peux pas rentrer trop dans les détails parce que dès le départ, ça donne des pistes. Mais on se retrouve avec des vies. Ces gens-là avaient prévu de vivre des vies d'une certaine façon, ou tel que l'auteur les décrit au départ, on se dit, il va se passer ça. Et ça part complètement dans tous les sens. Leur vie devient... par exemple, il y en a un qui travaille dans la finance et pendant des années, en fait, il a ruiné son entreprise, mais il continue à fournir des faux bilans, à faire croire à ses acheteurs qu'ils ont des obligations qui leur apportent des tas d'argent. Et on se dit, voilà, là, il est au bord du gouffre, il est au bord du gouffre, il vit, il se drogue pour essayer de faire bonne figure devant sa femme, ses gosses. Enfin, il y a son frère qui, lui, est parti pour faire le séminaire et qui se retrouve prêtre, mais il croit pas en Dieu, donc c'est pas évident. Il y a des scènes au confessionnal qui sont grandioses, puisqu'il est obligé d'écouter, et il raconte un petit peu quand ils écoutent au confessionnal. Enfin, c'est très drôle, c'est très fin. Et en fait, ça bouleverse un petit peu son quotidien parce que ça fait prendre conscience que ce qui nous arrive, en fait, c'est entièrement notre faute. Et eux, en fait, vont tout faire reposer la faute de ce qui leur arrive sur ce spectacle d'hypnose qu'ils ont été voir un après-midi.
C'est le point, ouais, le point de départ. Ouais, ouais. D'accord. Mais parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial dans cette soirée ou...
Moi, j'ai essayé de le dire, peut-être. Si, parce que bon, ils ont dans ce spectacle d'hypnose, donc les hypnotiseurs le font souvent. Ils font dormir les gens ou ils vous hypnotisent et puis ils disent comment vous vous appelez et vous vous rappelez plus comment vous vous appelez. Et moi, pour avoir réfléchi après à la fin du livre, je me suis dit, voilà, c'est peut-être ça, en fait. C'est qu'il a réussi, l'hypnotiseur, avec un des fils, à lui faire oublier son nom. Et je pense à partir de là, on peut penser qu'ils se sont oubliés, que la famille s'est complètement oubliée. Et il y a un éclatement, effectivement, à partir de ce moment-là. La famille s'éclate à partir de ce moment-là. On a un frère aîné, on a deux frères jumeaux, mais qui sont copiés-collés, c'est-à-dire que quand l'un rêve d'une chose, le matin au réveil, c'est l'autre qui se rappelle du rêve. Ils savent ce que l'un et l'autre pensent. Ces deux-là, il y en a un qui devient artiste peintre et l'autre donc qui travaille dans un organisme financier, donc on est quand même aux antipodes de ce qui peut être ressemblant. Le père, qui n'avait jamais rien fait de sa vie, se met à gagner de l'argent en travaillant. Enfin, je peux pas vous dire dans quelle profession, mais tout à fait honnête. Et c'est il y a ce bouleversement à partir de cette journée chez l'hypnotiseur, mais on se rend compte qu'en fait c'est une excuse, c'est un prétexte, et on se dit voilà, finalement la conclusion qu'on donnerait au livre très très courte, ce serait on a toujours besoin de trouver un coupable. Là, c'était l'hypnotiseur, ils auraient été voir un cirque, ça aurait été le cirque.
En positif ou en négatif, donc, parce que leur vie change ou positivement ou négativement ou...
Il y a 50-50.
Il y a 50-50.
Ouais. J'allais dire 50-50.
C'est intéressant comme synopsis, comme postulat de base de...
Mmh. Ouais, de partir de ça. Et après, on retrouve les familles qui se déchirent, qui se retrouvent. Finalement, celui qui était le plus fort qui va appeler à l'aide. Tous les défauts, en fait, l'avarice, la gourmandise, enfin, tous les...
Et on peut dire que c'est une fresque familiale avec des personnages attachants.
Qui sont attachants, des fois, ils frôlent le ridicule. Parce que, par exemple, le prêtre, il est obèse, il mange sans arrêt, il est dans le confessionnal et en fait, il se concentre pour ne pas faire de bruit quand il ouvre son gâteau, pour ne pas que la personne l'entende. Il est passionné de Rubik's Cube, il est deuxième au classement international de Munich de Rubik's Cube. Ils sont parfois complètement kitsch.
Mais c'est des personnages bien campés leur travers, on connaît leur histoire et on s'attache à eux.
Ouais, puis on a envie de les aider aussi. Enfin, par exemple, celui qui est dans la finance, on a envie qu'il se casse la gueule parce qu'il crée quand même le mal autour de lui. Il arnaque les gens, les femmes, puis il y a plein de choses qui se passent et à la fin, il y a des revirements de situation qui agacent, qui dérangent. Qui sont tristes, c'est très beau, il y a un peu de tout, il y a des passages qui plairont pas à Christine Boutin, notamment sur un des frères qui a un penchant différent de l'autre.
Elle va l'écrire, elle va le vendre à 12 exemplaires.
Je prends le risque, la liberté d'expression.
Pourtant les Allemands sont très droits, donc m'étonne qu'il y ait ce genre de scène.
Ils sont très droits mais ouverts. Attends.
C'est bizarre. Après ça dépend de quelle province tu viens d'Allemagne. Voilà. C'est où? C'est Munich, tu as dit.
La Bavière.
La Bavière. Munich. Et tiens, alors je me suis même pas posé la question de où est-ce que ça se passait exactement.
Tu as parlé de Munich tout à l'heure.
Oui, mais c'est parce qu'il a fait le championnat de Rubik's Cube de Munich, c'est pour ça. J'en ai aucune idée.
Okay.
Je ne sais pas.
Quelques mots peut-être sur l'auteur.
L'auteur, ce que je disais, c'est qu'à la base, il était prédisposé à être un peu artiste, puisqu'il est fils d'un réalisateur et d'une actrice. Ensuite, bon, il a travaillé, il a fait une, il est à la base, il a fait une école de philosophie et de littérature. Il a une thèse sur, il a fait une thèse sur Kant. Donc c'est pareil, on peut penser qu'il aime bien lire.
Oui.
Voilà. Et après, voilà, ses romans, ben, notamment Moi et Kaminski, Les Arpenteurs du Monde, voilà.
Oui, Les Arpenteurs, c'est un roman qui a beaucoup marché. Ouais.
Ouais, qui. Voilà, c'est bien, c'est pas très, c'est un livre de taille normale, j'allais dire, qui est pas très long à lire, mais qui, il faut tout, c'est-à-dire que plus court, il aurait manqué des détails, plus long, on aurait peut-être traîné en longueur sur certains chapitres.
Oui, donc finalement, c'est parfait.
C'est parfait, ouais, il est parfait, c'était un plaisir de
et
le lire.
C'est un bon moment,
ouais. Ouais, voilà, c'était un bon moment aussi, ouais. Bien traduit, a priori, puisqu'il paraît que c'est très dur de traduire l'allemand.
C'est dur de traduire en général.
Ouais. Ouais.
Et oui, l'allemand très très compliqué. Ouais.
Voilà. Ça te fait rire, Ludo ?
Oui, ça me fait rire. Il y en a qui ont des dispositions pour parler l'allemand autour de nous.
Guten Tag.
Rappelle-nous alors titre, auteur, éditeur.
Donc les Friedland, donc c'est le nom de famille des personnages qu'on va suivre pendant tout le livre. L'auteur Daniel Kellman, le petit jeune de 40 ans, et c'est chez Actes Sud. Voilà, c'est chez Actes Sud et c'est à lire. Et ça se passe dans les années 80.
Allez, on va rester rapidement parce qu'il est déjà 13h25. Qu'est-ce qu'on parle alors ? Pourtant, il n'y a pas Nico, hein. C'est étrange. En fait, c'est pas lui, hein, c'est nous aussi. Alors, vite, Actes Sud aussi. Russell Banks, un membre permanent de la famille. C'est un recueil de 12 nouvelles. Traduite bien entendu de l'américain, car Russell Banks est américain. Rapidement sur la vie de cet auteur, parce que ce n'est pas n'importe qui, donc on va parler. Il est né en 40 dans le Massachusetts. C'est un progressiste américain, un écrivain progressiste américain, donc j'ai appris ça. Je ne le savais pas. Son œuvre a été traduite en 20 langues. Il a passé son enfance dans un milieu extrêmement modeste. On verra après avec ce livre que ça se traduit dans ses ouvrages, en fait, cette classe américaine moyenne, notamment dans ce recueil de nouvelles.
C'est le cœur de tous ses romans.
C'est le voilà, exactement. Il a deux grands thèmes, tu parles du cœur de ses romans, c'est la recherche de la figure paternelle, il en a eu dans beaucoup de ses livres, et la description du monde des petits gens croulant sous le poids d'une vie quotidienne dure et pauvre, ou de la tragédie, c'est en l'occurrence l'objet de ce livre. Alors, un membre permanent de la famille, donc 12 nouvelles, des personnages aussi différents les uns que les autres. Donc on a un homme qui rentre dans une épicerie avec un perroquet imaginaire sur l'épaule, une sexagénaire qui perd son mari sur un court de tennis, un homme invité au Noël de son ex-petite amie, une femme coincée dans une concession auto gardée par un pitbull. En gros, Russell Banks y raconte l'Amérique, la banalité américaine, toujours en focalisant sur les classes moyennes, blanches et noires en Amérique. Dans ce recueil, il est question de survie, vivre aujourd'hui confronté aux difficultés économiques, politiques et raciales. Alors il excelle dans l'art, et c'est pas donné à tous les écrivains, de raconter un destin en quelques traits, de suggérer en fait sans jamais appuyer. Donc on en a parlé un peu en dehors, j'avais jamais lu de Russell Banks avant et j'ai trouvé cet auteur extrêmement subtil. Alors, il est fin, c'est de la haute gastronomie. On lit ce livre, on a l'impression que c'est facile, c'est une écriture simpliste. Et en fait, c'est là où il est très très fort, c'est que voilà, en quelques mots, il dessine un personnage sans forcer le trait, et le personnage est extrêmement bien dessiné. Ces personnages, donc j'en ai cité quelques-uns, c'est des personnages qui avaient un travail, un couple, des rêves, un horizon. Et aujourd'hui, la crise a ruiné leurs illusions et ils se débrouillent. Alors, il y a ceux qui vendent leurs maigres biens pour traverser l'Amérique en camping-car. Il y a cet homme qui est revenu de tout, qui a reçu le cœur d'un jeune motard. Il y a un représentant à la vie trouée qui se perd et se trouve lorsqu'il croise le chemin d'une fille au sourire triste. Voilà, plein de personnages différents, mais comme on dit, qui correspondent à cette classe moyenne américaine. C'est un reportage, voilà. Moi qui suis journaliste, ça me tient à cœur. C'est vraiment un livre-reportage sur cette classe moyenne américaine. Sur, il juge pas ses personnages, il les sanctifie pas. C'est pas des gagnants, c'est pas des losers, quoique. Mais voilà, c'est juste des personnages qui sont dans la vie, auxquels il arrive des histoires. C'est vraiment. C'est vraiment très beau, quoi.
Et tu sais si c'est basé sur des faits réels qu'il a vécu, enfin qu'il a vu, ou non, tu sais pas.
Ça je sais
mais
pas.
Mais toi, t'as l'impression, enfin tu dis le mot de reportage, donc t'as l'impression que ça pourrait être tout à fait vrai.
Oui, voilà, c'est tout ce que la littérature peut nous dire de la société. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est des histoires simples, courtes. Des fois, il y a... comment dire ? Oui, voilà, c'est des gens de classe moyenne auxquels il arrive des histoires pas forcément extraordinaires, mais on dépeint ces histoires, on rentre facilement dans ces livres, en fait. On vit leur vie avec quelques mots.
Oui, parce qu'il y a un côté, en même temps, j'imagine, assez ridicule, assez... On peut en rire, et en même temps, ça nous touche. Enfin,
C'est exactement ça. C'est exactement ça. On rentre dans la vie de ces gens comme si on regardait un personnage, un reportage télé. Mais voilà, ce qui est important encore une fois, c'est qu'ils jugent pas ces personnages, ils les rabaissent pas. Mmh. Voilà, c'est des histoires qui peuvent arriver à n'importe qui. Seulement, lui se focalise sur une certaine classe, à mon avis, parce qu'il a vécu dans cette classe étant jeune et que c'est important pour lui de mettre en avant ces personnages-là qui sont souvent les oubliés des sociétés. On oublie souvent les classes moyennes, c'est ceux qui passent un peu inaperçus. Mais voilà, c'est pour ça qu'il les met en lumière. Mais c'est extrêmement facile à lire. C'est vraiment intéressant, quoi. Russell Banks, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il était président du Parlement international des écrivains créé par Salman Rushdie entre 98 et 2004. Il y a des romans qui ont été adaptés au cinéma, dont Des beaux lendemains, qui a été Grand Prix au Festival de Cannes 97, qui a été réalisé par le Canadien Atmon Egoyan. Il a écrit l'adaptation cinématographique de Sur la route de Kerouac, qui a été réalisé par Coppola il y a deux ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est un grand écrivain américain. Et c'est vraiment l'écriture américaine dans ce qu'elle a de pur, c'est-à-dire d'écrire les personnages vraiment comme ils le sont, quoi.
Et un livre de nouvelles comme ça, c'est vrai que ça peut être le bon moyen aussi de le découvrir. Et après, il y a plusieurs grands romans qu'il a écrits qu'il faut absolument lire dans sa vie, je trouve. Il y a Sous le règne de Bonne, qui est magnifique, et American Darling. Moi, c'est les deux vraiment qui ont marqué ma vie. Donc voilà.
D'accord. Et il faut savoir qu'un livre de nouvelles, souvent le problème, suivant les auteurs, c'est que les nouvelles sont plus ou moins bonnes. Dans un livre de nouvelles, il y a toujours des nouvelles qui tirent les autres. Ouais. Sur les 12 nouvelles, allez, peut-être il y en a 2, 3 qui sont d'un niveau un peu plus en dessous d'autres, mais c'est très très bon de A à Z, quoi.
D'accord. Et le titre, Un membre permanent de la famille, c'est le titre d'une nouvelle, j'imagine
Oui, absolument.
Est-ce que ça parle d'un chien ? Parce qu'il y a un chien sur la couverture et...
Il y a un camping-car.
Oui, ça parle d'un chien. On retrouve beaucoup de chiens dans ces nouvelles, ouais. Il y a un chien, il y a un divorce entre une femme et un homme, donc ils se disputent la garde des enfants, et bien entendu, la femme provient d'une famille riche, donc elle garde la grande maison victorienne, que l'homme de toute façon n'aimait pas, donc il est content de se retrouver à 400 mètres de là dans un petit cabanon, il a l'impression d'être le concierge de sa femme. Et donc ils ont 3 filles qui va d'un à l'autre et ils se disputent. Il y a un chat, un chien, une chienne qu'ils avaient adoptée parce qu'elle était à la rue, qui est sourde, qui voit plus grand chose. Et lui veut garder la chienne et pas voir le chat qui va se battre avec les autres chats. Et bien sûr, la femme garde la chienne, lui garde le chat, sauf que la chienne l'entend pas comme ça. Il vient tout le temps chez lui. Mmh. Et donc, c'est une petite victoire pour lui. Alors, il la ramène, elle gueule au téléphone pour qu'il lui ramène la chienne. Et au final, elle laisse tomber. Et il fait une marche arrière avec les filles dans sa voiture. Il écrase la chienne.
Oh, le con. Pardon.
Qui était justement, donc voilà, c'est le loser, il a pas voulu, il aimait finalement cette chienne. Et en fait, il se rend compte que c'était cette chienne qui servait de lien entre les différents membres de la famille. Voilà, c'est une histoire. Ce sont des histoires comme ça, c'est touchant, c'est vraiment bien, ouais.
Bien.
Voilà, bien. Russell Banks, un membre permanent de la famille chez Actes Sud. Faut pas hésiter. Mais il est 13h32.
Une petite chanson.
13h32, si tu veux, on peut faire une émission de 3h. Sinon, c'est fini. Et Louise, elle est bien là.
Ouais, elle est bien, non, mais on est pas mal là, maintenant.
On remarque qu'on est pas mal.
Hein. J'aime bien le jacuzzi que vous avez installé. C'est très agréable.
C'est Nico.
Ouais,
par contre,
bien, merci Nico.
Il a foiré l'installation. Moi, j'ai pas trop de bulles sur le côté gauche.
Ouais, Nico et ses good luxe.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis fatiguée.
Donc, tu vois, il est temps que ça cesse.
Oui, et la semaine prochaine, une émission à l'extérieur. Donc,
voilà, dans 2 semaines, prochaine émission. Oui. Allez, on annonce, on vous prépare.
En secret.
Ouais, on le en dit, secret. On le dit pas.
On peut, pas, on peut faire un petit teaser, ah. Non.
Édition L'Archipel, teaser. Christiane Boutin.
L'Archipel.
Ouais.
Ouais. Comme ça m'étonne.
Quoi. Oui, oui, d'accord, ok.
Ouais.
Voilà.
Ils croient. Ils avaient bu.
Non, ils croient en Dieu.
Ça d'accord. arrive à tout le monde.
Donc teaser pour, allez, pour dans 15
teaser,
jours.
Teaser, donc dans 15 jours, ce sera une émission spéciale par le bout de la lorgnette à l'extérieur. Mmh. Car sachez que, chers auditeurs, pour vous, on va aller à l'extérieur pour recueillir des témoignages d'écrivains, de dessinateurs,
d'éditeurs.
Mmh. On va aller dans différents salons extrêmement connus, voire pas que. On annonce ou on annonce pas?
Bah, le PMU.
Non, mais ça, c'est la soirée de la veille du salon. Ça, il ne faut pas le dire.
Non, mais surprise non, la semaine prochaine, ouais, mais on fera un gros festival et on super. Fera quelques soirées d'éditeurs aussi.
Pour vous, bien entendu.
Bien ouais. sûr,
que pour vous.
Et promis, vous réentendrez Nico. C'est promis.
Ouais. On va
Allez, on met le bon jingle cette fois, le jingle de fin. Allez, merci.
Au revoir.
Merci les filles, ciao.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.